réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Les conditions d'hygiène sont déplorables dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa, par exemple, et du pays. L'insalubrité dans ces structures favorise la présence des souris, moustiques, cafards et des gros chats qui se nourrissent des détritus déversés dans les poubelles. D'après les spécialistes, cela est à la base des maladies nosocomiales. Alors, quelles sont les normes d'hygiène qu'il faut respecter dans une structure de santé? Docteur Mava Kouengani, responsable national de l'hygiène, est notre invité. Bonjour, docteur. Alors pourquoi bon nombre de structures de santé ne sont pas propres?
Merci beaucoup pour cette question. Vous savez que on ne peut pas d'emblée dire que nos structures de santé ne sont pas propres. Je sais que nos structures de santé, toutes ne répondent pas à 100% aux conditions d'hygiène, mais il y a des structures qui sont propres et qui sont bien fréquentées et les autres ne sont pas propres. Nous savons que les mesures d'hygiène et d'assainissement dans nos structures ne sont pas complètement requises. Évidemment, c'est parfois aussi à cause des moyens dont disposent nos structures sanitaires. Et ça, c'est ça que je peux dire pourquoi. Mais néanmoins, il y a des efforts qui sont fournis par ces responsables des structures qui sont en train d'améliorer les structures de soins pour permettre aux populations d'avoir des soins de qualité et au fait de fréquenter des structures dans un environnement qui est sain.
Alors, comment ces structures, qu'est-ce que ces structures doivent faire pour organiser un service d'hygiène très dynamique et qui met la propreté comme il faut?
Oui, je voudrais seulement rappeler que, au fait, ces structures disposent à leur niveau déjà de documents des normes, des documents des normes de ministère de la Santé, notamment les extraits de normes de soins de santé primaires, la SRSS, et aussi d'autres textes qui leur permettent de bien organiser les structures pour que les structures soient fiables. Donc les normes sont là, évidemment. Il y a des normes qui contiennent leur environnement externe de centres de santé ou un environnement interne des centres de santé. Il y a également des normes par rapport à l'environnement interne et externe de l'hôpital général de référence. Et ces normes sont déjà dans les documents qui sont au niveau des structures de soins.
Alors,
Par exemple, au niveau de santé,
oui,
des centres de santé.
Oui.
Un centre de santé, normalement, doit avoir comme norme, comme dans l'environnement interne de centre de santé, on doit avoir d'abord l'eau courante. L'eau courante ne peut pas manquer. Il y a l'éclairage également, l'énergie du centre de santé, mais il y a aussi la gestion des déchets solides au niveau des centres de santé, notamment l'incinérateur, les trous à ordures, les trous à placenta, les poubelles qui sont couvertes dans toutes les salles ou dans toutes les structures. Il y a également la gestion des déchets liquides. Donc, en fait, vous voyez, tout ce qui est produit au niveau des laboratoires, au niveau des différents services qui utilisent l'eau et les autres, en fait, doivent être bien traités. Et là, il y a des normes qui sont requises par rapport à ces centres, à ces structures-là, et au niveau de la gestion des déchets du liquide. Il y a également les latrines et les douches que le centre de santé ou les hôpitaux doivent avoir. Et ils doivent avoir des douches et des latrines en nombre suffisant et propres pour permettre à la population d'y adhérer. Et aussi la protection contre la contamination. Vous savez que le centre de santé ou l'hôpital, c'est au fait un milieu où il y a beaucoup de germes. Beaucoup de germes par ceux qui viennent à l'hôpital, qui sont malades, qui viennent avec des germes. Mais il y a aussi des germes qu'on trouve au niveau de l'hôpital. Et ces germes-là, parfois, ils ont rencontré des désinfectants, des antibiotiques et des autres médicaments ou produits et qui deviennent résistants. Donc, au fait, au niveau de l'hôpital, également, il y a des germes pour lesquels la population et aussi les prestataires doivent prendre des précautions. Ce que nous appelons les précautions universelles pour les prestataires, notamment le port de blouse, les gants, le masque, bonnet, l'usage des seringues à aiguilles disposables, et il y a aussi la stérilisation des matériels selon les techniques qui sont recommandées, et au fait, des crachoirs également, où le malade doit cracher dans un crachoir avec des couvercles. En dehors de ça, je vous dirais qu'il y a aussi la protection contre les insectes nuisibles. Ça, on ne peut pas les moucher, les moustiques.
Oui.
Et aussi la protection contre les bruits sonores au niveau des centres de santé. Ça, c'est au fait ce qu'on peut trouver au niveau des centres de santé ou au niveau de l'hôpital. Mais également, il y a aussi l'environnement externe, notamment les jardins, la cour, le centre de santé ou de l'hôpital, des flaques d'eau qui sont au niveau de l'hôpital ou bien tout autour de l'hôpital, mais également aussi l'hôpital doit être clôturé pour empêcher la divagation, soit des bêtes, soit des enfants, au cours de, dans le cours de ces installations.
Oui, docteur Mavin, ce sont là les normes, mais je me dis aujourd'hui, avoir un service d'hygiène compétent, dynamique, il faut des moyens. Et tant que l'hôpital peut-être n'a pas de moyens, les structures pour payer les infirmiers et les médecins, est-ce que vraiment on mettra beaucoup de moyens pour assurer l'hygiène?
Oui, en fait, ça nécessite pour l'hygiène et l'assainissement au niveau de l'hôpital, c'est vrai, ça nécessite les moyens. Mais vous comprenez que l'hôpital aussi, c'est une structure qui produit également, parce que celui qui vient à l'hôpital, il paye sa consultation. Donc, en fait, une partie des consultations, des frais de consultation, devraient être affectés à la gestion de ce qu'il amène comme papier, comme fiche, comme ceci, tout le reste. S'il y a un plâtre à refaire ou un plâtre à monter, tout ce qui est comme gestion des déchets du malade ou ceux qui accompagnent le malade doivent être gérés. Donc, au fait, au niveau de l'hôpital, il y a une instruction qui est sortie, surtout pour les hôpitaux de Kinshasa, où ils doivent avoir une gestion avec des titres affectés à la gestion des déchets qui sont produits par les malades ou alors par le personnel médical au sein de l'hôpital.
On a vu dans certains hôpitaux, par exemple à Kinshasa, les toilettes du personnel médical, les toilettes sont propres, mais les toilettes réservées aux malades, mais c'est trop sale. Dès que vous y entrez, vous avez l'odeur du pipi qui vous accueille. C'est pas très très propre. Alors devant, qu'est-ce que vous pouvez dire devant une telle situation?
Oui, devant une telle situation, au fait, vous comprendrez que ce n'est pas seulement dû aux autorités. Non, en fait, c'est dû à la gestion propre des structures des soins par les responsables de ces structures. Donc, moi, je vois très mal, parce que dans un hôpital, il y a des frais qui sont destinés, par exemple, au personnel, mais il y a aussi des frais qui sont destinés à la gestion de l'environnement externe et interne, notamment les toilettes et les autres. Moi, je comprendrais très mal, et ça, nous avons eu à donner des instructions au niveau des structures de soins pour que les toilettes des malades, comme les toilettes du personnel, soient en bonne qualité et permettent ainsi un environnement qui va rendre agréable aux malades ou au personnel d'y fréquenter. Mais si les toilettes ne sont pas bien entretenues, évidemment, la responsabilité incombe beaucoup plus aux gestionnaires de l'hôpital. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise.
Ouais. Quelles sont les normes d'hygiène dans une structure de santé? Ogi Bendelo nous appelle Kikuit et Jerry Mido de Bandundouville.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Quelles sont les normes d'hygiène dans les structures de santé? Ogi Bendelo, vous êtes à Kikuit, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute.
Merci à tous les auditeurs de la radio Café qui nous suivent. Bon début de semaine aussi à vous tous. Merci de m'avoir accordé la parole.
Oui.
Le sujet est très intéressant. L'invité parle des toilettes impropres, mais moi maintenant je vais parler du manque de toilettes parce qu'une fois j'avais amené mon petit frère qui était malade à un des centres de santé de ma ville, c'est-à-dire Kikuit. Et là, monsieur Jody, il n'y a ni toilettes. Pour ne pas parler de douche. Et puis, vous allez remarquer que dans ce centre de santé-là, les malades se servent avec des morceaux de bidon coupés pour se servir comme pot pour faire pipi et caca vers 2h, 3h du matin et 4h, 5h, ils se rendent, je ne sais où, pour le jeter. C'est pourquoi je vais poser cette question directe à notre invité. Quel conseil peut-il donner à des telles structures qui manquent des toilettes et des douches? Merci beaucoup, je vous remercie.
Bien. Jerry Mido, vous êtes à Bandonouville. Bonjour.
Bonjour, Jody Kassama. Bonjour, Alain.
Quelle est votre question,
bon, je ne sais pas si c'est le même docteur Mavar qui m'a donné le cours de pharmacologie à l'Ixem Bandonouville. Je ne sais pas si c'est lui, je l'ai salué vraiment pas ça. Et ma question est celle qui m'a préoccupé parce que je ne sais pas. Nous, ici à Bandundu, partout dans la RDC, donc les hôpitaux naissent comme des champignons. Je ne sais pas. Derrière la maison, il y a des petits hôpitaux qui se naissent par-ci, par-là, donc les centres sociaux, culturels, si c'est de l'affaire sociale, quoi. À manque d'argent, et voire même, ils intéressent d'autres docteurs pour faire intervenir les gens, pour faire accoucher les mamans qui sont là. Je ne sais pas. Les hôpitaux qui manquent même des insinérations par-ci, par-là. Lorsqu'ils insinuent leurs besoins, là, ou bien leurs déchets, là, vraiment, je pense au quartier, nous sommes très mal, très mal. Donc, vous ne pouvez pas même respirer, je ne sais pas. Qu'est-ce que les docteurs peuvent nous dire par rapport à cela? Est-ce que vous pouvez porter plainte à tous ces hôpitaux-là ou quoi? Je ne sais pas. C'est ça ma préoccupation.
Merci. Docteur Mavar.
Merci beaucoup. Je prends notre ami Guy Bondelo de Kikwit. Il a parlé des manques de toilettes et parfois des douches. Nous avons dit que, au fait, un centre de santé et un hôpital, nous avons donné les normes. Pour qu'il y ait centre de santé, pour qu'il y ait hôpital, on doit avoir toutes les conditions réunies. Donc, on ne peut pas avoir un centre de santé qui n'a pas de toilettes. On comprendrait qu'il y avait des toilettes, par exemple, et que les toilettes sont devenues en mauvais état et qu'on n'a pas pu réhabiliter. À ce moment-là, c'est vrai, ça pose un problème. On doit chercher des moyens, les fonds, pour permettre à ce que qu'on puisse réhabiliter des centres de santé, plutôt les toilettes ou les douches. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait un centre de santé sans douche, sans toilette, parce qu'au fait, quand les gens, quand ils vont y habiter, évidemment, il y a tous les organes qui doivent fonctionner, notamment la défécation et la miction. Donc on ne peut pas avoir un centre de santé. Pourtant que on ne sait pas pourquoi les malades viennent, peut-être pour des diarrhées, et on ne peut pas se retrouver dans des centres de santé sans toilette ni douche. Donc pour ces centres de santé, évidemment, il faut, je pense, se rapprocher de responsables. Si ce sont des centres de santé privés, souvent, ce sont des centres de santé privés qui peut-être manquent ça parce qu'au fait, un centre de santé officiel pour lequel nous organisons des supervisions, des suivis, il n'y a aucun centre de santé, il n'y a aucun hôpital officiel aujourd'hui qui manque les toilettes ou les douches. Je pense que c'est une norme qui est respectée. Mais pour certaines structures, par exemple, privées...
Mais les douches mal entretenues, douches et toilettes mal entretenues.
Oui. Oui, au fait, douche et toilette mal entretenue, mais au moins ça existe. Pour l'entretien, évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des fonds qui sont affectés également pour la gestion et pour l'entretien des douches. Ces fonds-là sont souvent et parfois utilisés à autre chose. Mais lorsqu'il y a un comité d'hygiène, un comité d'hygiène opérationnel, c'est au fait ce comité d'hygiène qui suit les conditions et les normes d'hygiène dans l'environnement de l'hôpital ou de la structure. Donc, il doit, notre collègue Bendelo Guy doit approcher les responsables de ces structures à défaut, au fait de se référer, à, comme il est à Bandou à Kikwit, de se référer au médecin chef de district. Nous connaissons notre collègue docteur Kipasa qui est là, qui est très dynamique. Je ne pense pas qu'il prendrait 24 heures pour fermer ces centres de santé et en attendant qu'il y ait des douches ou des latrines. En ce qui concerne le collègue de Jérémy de Bandundu, il a parlé de
la pollution, oui,
champignons.
Oui. Lorsqu'on
est champignons et qui manque d'incinérateurs, par exemple.
Oui.
Pour un hôpital qui est affecté à réaliser, par exemple, des accouchements, des actes qui vont nécessiter un incinérateur, des hôpitaux-là, pour les hôpitaux de l'État, aucun hôpital de l'État ne peut manquer un incinérateur. Il y a un incinérateur, souvent, il y a un incinérateur, il y a des trous à placenta, il y a des trous à ordures, il y a des latrines. Donc, ça ne peut pas manquer dans un hôpital ou dans un centre de santé qui a dans sa charge, par exemple, de produire les déchets qui doivent être incinérés. Mais ce qu'on constate, évidemment, ce sont des petits centres privés qui naissent de dehors, évidemment, de dehors ou bien au sein de la ville, pour lesquels les conditions ne sont pas réunies. Et là, nous attirons l'attention des médecins inspecteurs qui, parfois, donnent l'autorisation. Peut-être ce n'est même pas les médecins inspecteurs, peut-être c'est les bourgmestres de la commune qui a autorisé le fonctionnement alors que les conditions ne sont pas requises.
Oui.
Je pense que
oui, mais,
doit se référer
docteur Mavard,
de l'inspection de la santé pour pouvoir voir un peu si les normes que nous avons énumérées tout à l'heure sont respectées.
Docteur Mavard, Géry nous parle également d'un centre de santé dans son quartier qui brûle les déchets, voilà, et puis il y a une pollution de l'environnement extraordinaire. Alors ils sont mal à l'aise dans ces quartiers. Il s'est dit, doivent-ils aller porter plainte ou pas? Il y a un problème, la pollution de l'environnement.
Oui, ça c'est vrai. C'est dit que les normes disent que, au fait, on ne peut pas brûler à part un incinérateur bien construit qui oriente la fumée, par exemple, de tout ce qui est brûlé, incinéré, un peu plus loin de l'hôpital ou non pas dans les abords des domiciles des autres. Donc, au fait, ceux qui brûlent dans les maisons ou dans les structures de soins, ce sont des gens à condamner. Au lieu peut-être d'aller dans une structure, par exemple au parquet, ou je pense que les collègues feraient mieux d'abord d'aller au niveau de l'inspection provinciale, d'aller au niveau de la zone de santé, parce que en fait, c'est la zone de santé qui est l'unité opérationnelle, qui représente le ministère de la Santé, là où se trouve la structure, d'aller à la zone de santé et de porter plainte. Au fait d'informer les médecins chefs de zone, et je suis sûr que les médecins chefs de zone, dans les 48 heures ou dans la semaine qui suit, va prendre des décisions qui s'imposent pour que les centres de santé puissent fonctionner avec des incinérateurs ou des structures bien requises.
Bien, quelles sont les normes d'hygiène dans une structure de santé? Ilunga nous appelle de Kalemi et Albert de Kananga. On va commencer avec Ilunga. Bonjour.
Radio Kabi.
Quelle est votre question, Ilunga?
Ma question est celle-ci. Est-ce que les malades et les infirmiers doivent avoir les mêmes toilettes?
Oui, la question est de savoir si les malades et les infirmiers doivent utiliser les mêmes toilettes. Ok, une autre question? Non? C'est fini?
Non, mais c'est ça la même question.
Merci. Albert, vous êtes à Kananga. Bonjour. Albert Mwananga, bonjour. Il n'est plus en ligne. Docteur Mavare, voilà une question de la question de Ilunga de Kalemi. Est-ce que les malades et les infirmiers peuvent utiliser les mêmes toilettes?
Merci pour Ilunga de Kalemi. Vous le constatez, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné les normes. Les infirmiers et les malades ne peuvent pas. Si les infirmiers sont sains et les malades viennent avec des germes pour se faire soigner, évidemment, ils ne peuvent pas avoir les mêmes toilettes. Même dans les bons sens, celui qui est malade ne peut pas, et surtout dans une structure où il y a beaucoup de malades, on ne peut pas utiliser les mêmes toilettes. Les infirmiers ou les personnels ont leurs toilettes, leurs douches à part, et les malades également ont des douches et des toilettes à part. Et ces toilettes doivent être gardées propres. Nous ne disons pas que les toilettes des malades doivent être sales, mais doivent être tenues propres. Et lorsque on est en train, par exemple, de les nettoyer ou de les désinfecter, on tient compte de ces éléments qu'au fait, les toilettes des malades doivent être renforcées avec des grandes concentrations de produits pour permettre une élimination des germes. Donc, les malades et les infirmiers ou les personnels ne peuvent pas, en aucun cas, avoir les toilettes, les mêmes toilettes ou les mêmes douches.
Et maintenant, parlons des gardes malades. Il y a certains gardes malades qui sont là à l'hôpital. Il y a des hôpitaux, il y a beaucoup de moustiques. Bon, on a prévu quelques moustiquaires pour les malades, mais les gardes malades dorment à même les sols et sont piqués toute la nuit. Ils peuvent attraper la malaria là-bas, et puis lorsqu'ils vont se laver dans les douches, mais c'est trop sale. Alors, ces gens peuvent attraper des maladies à l'hôpital alors qu'ils sont venus pour garder les malades. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation?
Oui, merci. Vous savez que dans nos pays d'Afrique, ça, on peut se le dire, évidemment, quand quelqu'un est malade, il amène avec lui la cohorte de tous les membres de la famille. Peut-être il peut avoir un garde malade, mais d'autres peuvent avoir, si c'est le papa, c'est au fait avec la maman, avec la nièce, la cousine, la grande sœur, au fait, tout se retrouve là-bas.
C'est toute la
famille. C'est ça qui fait que nos hôpitaux sont parfois bondé de gaz malade et on n'arrive pas à bien administrer les soins comme il se doit. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est au fait de restreindre d'abord le nombre de gaz malades par malade pour permettre qu'il y ait une bonne gestion. Et le garde malade doit bien être identifié. Moi, je connais des structures, quand vous êtes garde malade, vous avez un numéro, un jeton, et ça vous permet également de fréquenter les toilettes. Évidemment, quand nous disons les toilettes de malade, ce sont les toilettes qu'on rend propres, pour autant que le garde malade accompagne les malades dans ces toilettes, parfois qui n'arrivent pas à marcher convenablement. Donc, au fait, ce sont les toilettes qui sont propres et pour lesquels les gardes malades, je pense, ne peuvent pas se gêner pour amener celui qui l'accompagne au niveau de structure. Donc, les moustiques et les autres, on donne les moustiques, et c'est vrai. Quand nous considérons un lit, c'est au fait, on donne. Pour autant que nous n'avons pas assez, par exemple, de matériel, évidemment, les gardes malades, souvent, soit ils dorment par terre, soit il y a des structures qu'on a aménagées pour eux,
oui.
Mais souvent, nous protégeons beaucoup plus d'abord celui qui est malade. Les gardes malades, nous savons qu'il est venu accompagner. Parfois, ils font des rotations, c'est vrai, mais à l'impossible, vous savez, parfois, nul n'est tenu lorsque nous n'avons que 40 lits oui. ou 20 lits et il y a 20 malades, on ne sait pas doubler les nombres des infrastructures pour permettre aussi de gérer des gardes malades.
Mais pourquoi
les parents
pourquoi,
ou les autres, on oui. demande, il y a parfois des salles qui sont disponibles et on met les gardes malades là-bas et de temps en temps, on peut les appeler lorsqu'on a besoin d'eux pour aider les malades à faire quelque chose.
Bien, mais pourquoi dans certains hôpitaux, on met par exemple plusieurs malades dans une même salle, là, une salle commune, est-ce que c'est propre, c'est hygiénique d'entasser les gens 10 ou 15 ou 20 dans une même salle?
Merci pour cette question. Évidemment, ça dépendra des cas, par exemple. Lorsqu'on a, par exemple, des gens qui font, par exemple, prenons les deux opérés, évidemment, on a préparé une salle post-op ou bien une salle où les malades doivent être gardés et on maintient les conditions de sécurité, d'asepsie de telle façon que cette salle-là est une salle qui est rigoureusement tenue. Évidemment, on peut là mettre deux ou trois malades. On ne peut pas entasser, évidemment. Mais vous savez, les conditions qui sont les nôtres, par exemple, où on n'a pas assez d'espace, on n'a pas assez de salles, évidemment, on peut prendre, par exemple, une salle de quatre ou cinq lits, on peut mettre un malade, mais on peut mettre plutôt les malades et les malades qui ont pratiquement les mêmes problèmes de santé pour lesquels il y a un suivi régulier. Ça permet également à l'infirmier qui est à côté de suivre régulièrement les malades qui se trouvent dans son pavillon. Un pavillon qui peut avoir 3 ou 4 ou 5 malades, ou parfois 10 comme dans certaines grandes structures, évidemment, ça permet également un bon suivi. Un bon suivi.
Voilà, nous avons la question de François Mbouyou de Manono. Ma question est de savoir, pour une latrine, il faut combien d'hommes et de femmes dans un hôpital? Donc, il veut parler des nombres d'utilisateurs.
Oui, les nombres d'utilisateurs, évidemment, ça dépend. Normalement, vous savez, lorsqu'il s'agit, par exemple, dans des structures, dans des salles, par exemple, dans des classes ou les autres, on sait qu'il y a autant 30 garçons, peut-être 20 filles. Mais évidemment, au niveau de l'hôpital, on pense beaucoup plus à la densité, à la fréquence de malades. Et là, évidemment, également à la disponibilité des salles également. Donc, normalement, on peut avoir pour 10 malades, on peut avoir une toilette, pour autant qu'ils ne vont pas faire la file. Mais évidemment, aujourd'hui, dans nos conditions, il y a les malades et il y a les gardes malades. Donc là, il faut avoir des toilettes en nombre suffisant pour permettre qu'il n'y ait pas de file d'attente, donc les malades attendent pour aller, mais également que les conditions également d'hygiénique soient assurées. Donc, au fait, les nombres dépendent du nombre de lits et aussi le nombre dépend aussi des infrastructures dont des salles dont disposent les centres de santé ou l'hôpital.
Et nous avons remarqué, par exemple, dans le bon nombre des structures de santé, ceux qui assurent l'hygiène, c'est des papas, parfois il y a des mamans déjà âgées qui ont pris de l'âge et qui sont fatiguées, et ils sont pas nombreux également, donc il y a aussi un problème là, au niveau du personnel, rajeunir le personnel, avoir des équipes dynamiques.
Oui, en fait, dans l'ancien temps, c'est ce qu'on appelle souvent soit les filles ou les garçons des salles, évidemment, ce sont les gens qui qu'on a recrutés selon un critérium et qui sont affectés là-bas. Mais évidemment, vous savez que dans nos structures, dans notre administration aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu âgés et qui n'arrivent pas à faire les autres activités, par exemple, qui étaient commises, mais qui sont réaffectés, par exemple, au niveau de comme garçon ou comme fille des salles. À ce moment-là, nous donnons une petite formation sur l'État et en fait nous affectons ces personnels tout en leur donnant les conseils et les attitudes pour se protéger d'abord eux-mêmes et protéger leur famille. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé de personnel évidemment vieilli dans nos structures de soins et surtout ceux qui sont affectés à l'assainissement et à l'hygiène. C'est vrai, mais aujourd'hui, je pense que la tendance est en train de remonter. Nous avons beaucoup d'institutions d'enseignement, que ce soit enseignement secondaire ou enseignement supérieur, qui aujourd'hui produisent de personnel qui sont capables de gérer. Nous avons, par exemple, la Croix-Rouge pour Kinshasa. Il y a l'ISTEM également qui a ouvert un centre, disons, une formation supérieure, mais il y a également les autres structures comme l'IEM, comme à Kitambo, où il y a des hygiénistes aujourd'hui, des techniciens d'hygiène qui sortent là-bas, et ce sont des jeunes qui sont de plus en plus affectés. Et il y a des gens qui acceptent ces métiers-là, pour lesquels nous prenons vraiment la charge de les former correctement avant de les lancer. Je pense que c'est une question de choix. On ne peut pas orienter, on ne peut pas pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne voudra pas, mais pour ceux qui le veulent, en tout cas, ils sont. Il y a même des infirmiers qui acceptent aujourd'hui de se convertir en personnel ou en technicien d'assainissement ou en technicien de surface.
Bien, nous avons la question de Moïndo Luc Cambéré. Il dit « Les structures de santé de la RDC sont devenues très dangereuses et on peut attraper des maladies suite au manque de suivi. » Et en plus, il dit « pourquoi l'État ne sanctionne pas les structures de santé qui ne respectent pas les normes d'hygiène ?»
Bon, notre collègue Moïndo Patit, il va un peu beaucoup plus loin pour dire que nos structures de santé sont dangereuses, mais quand vous regardez un peu le taux de ceux qui entrent et ceux qui sortent parfois avec des infections nosocomiales, je pense que c'est vrai que nous sommes dans un pays en développement. On ne dirait pas que c'est élevé, mais je ne pense pas. Mais je pense que nous apportons beaucoup plus de soins que les contraires. Ce n'est pas si dangereux. Et je pense que toutes les précautions sont prises pour permettre à ce que les malades, que les autres puissent fréquenter les structures de soins, qu'il ait confiance au personnel et à tous les personnels qu'ils trouvent en place. Je pense qu'on les prend correctement en charge et même si parfois on peut trouver certaines défaillances qui sont inhérentes peut-être à l'activité de l'homme, mais je pense qu'il peut faire confiance aux structures de soins qui apportent beaucoup plus de soins à nos populations et je pense attraper, est-ce que les services de santé, nous-mêmes nous assurons des supervisions, nous-mêmes nous avons tout un service au niveau provincial et au niveau des zones de santé qui assurent les suivis de nos structures de soins et qui assurent, il y a des supervisions, il y a des suivis, il y a même des feedbacks qui sont constamment réalisés auprès des autorités sanitaires pour leur permettre, aux autorités sanitaires des centres de santé et des hôpitaux généraux de référence, pour leur permettre d'améliorer. Je pense que on ne laisse pas impuni, oui. Mais il y a régulièrement des feedbacks qui sont réalisés et il y a des corrections. Lorsqu'on réalise une supervision, on essaie d'améliorer, d'enseigner encore, de corriger les collègues qui sont là pour lui permettre à ce que de bien faire son travail.
Bien, on va terminer cet entretien avec la question de Prince Mukadi de Kananga. Prince, bonjour.
Ah, bonjour, cher auditeur. C'est Prince Mukadi à Kananga. Je salue premièrement la radio Kati et tous les auditeurs de la radio Kati.
Prince, quelle est votre question,
bon,
Prince?
Je voulais poser la question. Je disais que concernant les normes de l'implantation d'un centre de santé ou bien d'un hôpital, bon, il faut implanter là où se trouvent les gens ou bien il faut implanter les centres de santé éloignés de la population. C'est ça aussi, c'est ça la question.
Bon, c'est une question qui ne cadre pas avec le thème du jour. On parle des normes d'hygiène à respecter dans une structure de santé. Bon, ouais, c'est une question. On va aborder ça prochainement. Docteur Mava Kwengani, je rappelle que vous êtes responsable national de l'hygiène. Donc, on peut retenir que les normes d'hygiène à respecter dans les centres, les structures de santé. Donc, il faut avoir des latrines propres, avoir des poubelles et assainir toujours le milieu, assainir l'environnement.
Oui, c'est ça. Vraiment, il faudrait que les collègues qui viennent aussi, ceux de parents qui accompagnent les malades aussi, puissent avoir des attitudes propres. Parce que quand nous regardons dans nos structures de soins, ce qui abîme beaucoup plus, ce qui rend beaucoup plus insalubre aussi, ce sont parfois les gardes malades qui viennent en nombre impressionnant et au fait avec tout ce qui apporte comme manque d'hygiène peut-être au niveau de l'hôpital qui permet à ce que l'hôpital puisse faire face à tous ces problèmes. Je pense que pour le personnel de santé, il y a des précautions universelles qui doivent être prises et ils les savent régulièrement. Pour les autres, pour les malades, je pense que nous efforçons à accompagner nos structures de soins pour qu'il y ait un environnement externe et interne de qualité pour permettre à ce que le malade puisse bien passer un séjour agréable et sortir de sa maladie, aller en bonne santé dans la communauté. Pour les gardes malades, nous leur demandons de vraiment d'avoir les nécessaires et ne pas salir nos structures de soins parce qu'au fait, quand nous regardons aujourd'hui dans nos hôpitaux, c'est beaucoup plus les gardes malades qui nous apportent beaucoup plus de problèmes en termes de déchets, de gestion des déchets au niveau des hôpitaux.
Docteur Mava Kwengani, responsable national de l'hygiène, merci.
Merci beaucoup, mon frère.